c'est pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ce soit cool, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Et bienvenue dans ce Canut Info du jeudi 6 juillet. Oui, non, parce que Laurent me fait des petites blagues pendant le générique, puisque je chante un petit peu ce générique du Canut Info. Et donc, de temps en temps, il essaye de me mettre à l'antenne en direct. D'ailleurs, un message, si toi qui nous écoutes, tu fais de la musique concrète, comme Pierre-Henri, hein, que vous avez peut-être entendu ça, est mort aujourd'hui. Et ben toi qui fais de la musique concrète, je te lance un défi. Transformer cette musique, cette ce chant des Canuts en musique concrète. Ah bah c'est pas gagné, bah je suis sûr que ça pourrait se faire. Moi je suis absolument incapable, je vous le dis. Mais voilà, c'est un défi que je te lance. Hein. Alors, ça peut être pour 2020, hein. Je ne suis pas pressée. Donc bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez. Ce soir, avec Laurent, on va vous parler de tout plein de choses. Laurent commencera en parlant de Nicolas, le petit Nicolas Hulot. On parlera donc d'environnement pour commencer avec cette question auquel nous avons une réponse. On doit vous le dire tout de suite. Escroc ou écolo? Mais on vous l'avait déjà fait, hein, cette question concernant monsieur Hulot. On parlera vélo, on parlera renouvelable, ce qui nous permettra ensuite de parler de ce qui se passe un petit peu sur Lyon avec la bourse au mérite. Et puis on parlera des doubles sens cyclables, parce que nous, c'est un sujet qui nous agite souvent dans ce Canut Info, hors du Canut Info certes, mais ça nous fait souvent causer. Et puis on continuera avec un petit peu du marketing et de la diplomatie. On parlera panda. Oui, vous savez, le machin qui est censé être joli et mignon, mais qui en fait est assez méchant.
Oui, oui, c'est pas un animal sympa, quoi. C'est pas un chat.
Non, non, exactement. Mais ça nous permettra plutôt de parler de diplomatie. Et puis ensuite, nous allons nous faire notre critique de ce film de Bong Joon-ho. Okja, critique pas tout à fait vegan, autant vous prévenir, puisque non. Dans ce Canut Info, sachez-le dès maintenant, si vous avez le cœur sensible, nous ne sommes ni végétariens, ni végétaliens, ni antispécistes, nous sommes des mangeurs de cadavres, et oui, mais ça ne nous empêchera pas de faire une critique de Okja, ce qui, moi, me permettra de vous faire des petites histoires de cochons, et oui, je vais revenir un petit peu sur ces histoires de profit autour de du cochon, du porc, hein, plus précisément, puisqu'une fois qu'il y a ces mort, c'est du porc. Ce qui m'amènera à vous parler des algues vertes. Hein. Et oui, il y a un lien, tout à fait, je vous le rappelle. Et puis, Laurent va continuer ensuite en nous parlant de ni Dieu ni maître aux États-Unis d'Amérique. Et puis, il nous parlera parlera aussi de fachos et d'autoritaires ou d'autoritarisme, entre autres avec Gérard.
Notre empereur.
Notre empereur à nous, parce que nous, on va le garder. Et nous parlerons aussi de Microsoft. Mais donc, vous aurez compris, c'est tout ça est un petit peu mélangé. Mais pourtant, il y a du lien, vous allez le voir, dans tout ce qu'on va vous raconter ce soir. Et juste avant que tu commences, je souhaiterais remercier quelques personnes qui se reconnaîtront. Je suis dans le désordre, hein, ça va vite comme ça me vient. Des gens qui ont fait savoir qu'on leur avait manqué, des gens comme Fabien, des gens comme Jean-Yves, des gens comme Christophe et des gens comme François. Merci à vous parce que ça nous fait plaisir de savoir qu'on vous a manqué voilà, quand on a été absent. Ça nous a fait chaud au cœur et tout de suite de l'environnement. Enfin,
oui. Alors on va parler.
On sait pas bien.
On va essayer de répondre à la question si Nicolas Hulot est un escroc ou un écolo. Un escroc de l'écologie, bien évidemment. Dans les autres domaines, nous n'avons pas d'idée. Donc il a annoncé aujourd'hui les mesures phares de son plan climat. Je vais les résumer rapidement. La première, il y aurait une augmentation de 40% de la taxe carbone. Donc l'idée c'est de l'augmenter, alors ils sont fixés l'horizon 2050, pour arriver à une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'ait plus d'impact, qu'on ait autant de carbone capturé que de carbone rejeté, grosso modo, cette neutralité. Donc voilà, dans les bruits qui courent, parce qu'il n'a pas donné tout en détail, il voudra augmenter le prix de la tonne de carbone en 2030 à 140 euros. On sait que pour l'instant, le prix de la tonne de carbone a jamais limité les émissions, c'est une escroquerie, hein, les bourses au carbone, ça a eu aucun impact environnemental. Alors peut-être qu'il faudra le mettre à 1000, 2000, 5000, 100 000 euros pour que ça ait un impact. Je suis pas sûr que les 140 euros aient vraiment un impact. L'autre mesure, c'est sur les bagnoles, puisque il a annoncé qu'il voulait en finir avec la commercialisation des voitures roulant à l'essence ou au gazole, carrément. Mais d'ici 2040 quand même, hein. Donc on a encore 23 ans devant
ouais,
nous
c'est ça, ouais.
Pour respirer de la merde. Alors avant ça, il va quand même aider les ménages les plus modestes à acheter des voitures. Bah ouais, faut quand même pas délirer. Il veut supprimer les voitures qui polluent, mais en attendant, il veut en vendre le plus possible. Et pour ça, il faut aider les personnes qui ont des soucis à renouveler leur voiture. C'est-à-dire les personnes soit pauvres, soit pas très riches, hein, puisqu'il y a différentes échelles. Hein, en leur permettant d'acheter soi-disant des voitures moins polluantes. Alors c'est une réalité, quand on achète quelle que soit la voiture aujourd'hui qu'on achète, à condition qu'elle soit du même niveau que la voiture dont on se sépare, si vous aviez une Clio, vous achetez une Porsche, forcément vous polluez plus. Mais si vous restez dans le même ordre de grandeur de voiture, la voiture que vous achetez, forcément 10 ans après, elle pollue moins parce qu'elle consomme moins et que ça s'est amélioré. Sauf que toutes les études ont montré qu'en fait, acheter un modèle récent ne fait pas baisser la pollution. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents effets rebonds, et le plus courant des effets rebonds sur la voiture, c'est que comme on consomme moins, enfin pas moins, mais que les automobilistes consomment moins, ben ils augmentent naturellement leur nombre de kilomètres.
Tu veux dire que comme ils dépensent moins d'argent dans l'énergie, c'est-à-dire dans le pétrole,
ils en remettent plus quand même pour arriver finalement au même.
Parce qu'ils ont le même budget.
Voilà.
Fait.
Ou que des gens qui n'avaient pas de voiture se disent ça pollue moins donc on en achète. Ce qui fait que si on regarde depuis le développement de la voiture, c'est-à-dire les années 60 à aujourd'hui 2017, les voitures polluent beaucoup moins et la pollution est plus importante à cause des voitures. La pollution liée à l'automobile. Donc en fait, c'est un faux problème. C'est pas parce qu'on achète une voiture moins polluante que ça polluera moins. Et enfin, c'est même sûr d'ailleurs, ça polluera au moins pareil, voire plus. Donc c'est bien évidemment un faux truc. Après, arrêter les voitures en 2040. Il veut arrêter les voitures à moteur thermique. Il faut les remplacer par d'autres voitures. Qu'est-ce qui reste ? Ben voilà, il reste qu'un truc, c'est le nucléaire. On va en reparler. Il en a pas parlé d'ailleurs, c'est fait exprès, hein, parce que vraisemblablement, il va nous vendre de la bagnole électrique, ce qui est une aberration écologique autant que l'est la voiture thermique. Ensuite, il a reparlé de la taxe sur les transactions financières qui devrait rapporter 20 milliards d'euros, qui serait partagée entre une partie aux pays pauvres pour les aider à faire la transition énergétique, enfin directement à basculer du bon côté de l'utilisation de l'énergie, et une autre partie qui serait réinjectée dans les pays, dans nous, chez nous, en transition énergétique. Il faut savoir que cette taxe européenne sur les transactions financières, personne n'est d'accord au sein du gouvernement, il y a deux écoles, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, donc du coup, pour l'instant, c'est juste un effet d'annonce. Alors, il a dit aussi qu'il voulait développer les énergies renouvelables. Ah, c'est beau ça, ça me fait plaisir. Alors, on ne sait pas comment, avec des mesures peut-être de simplification réglementaire, on n'a pas trop d'infos là-dessus. On sait qu'il veut que ça passe à 32% de la consommation d'énergie totale d'ici 2030. On ne raisonne pas sur l'électricité, là, on raisonne sur l'énergie totale en 2030. Comment ? J'ai aucune espèce d'idée, c'est pareil, il fait des grandes annonces, mais on ne sait pas bien. Bon, il veut mettre fin au charbon, on rappelle qu'il reste 4 centrales au charbon en France, 4 pauvres petites merdes. Certes, il y en a une dans la ville du Havre, que soutient avec amour Édouard Philippe, le premier ministre charbonnier de France. Mais bon, c'est ça, ça pose aucun problème. Alors, autre truc qu'il a annoncé, il veut éradiquer ce qu'il appelle les passoires thermiques. Donc, nous sommes à Radio Canu, qui est une belle passoire thermique, hein, on peut quand même le dire. C'est-à-dire, les vieux bâtiments, il va falloir les isoler. Comment ? On n'a aucune idée. Parce qu'il faut savoir que la majorité des bâtiments qui sont mal isolés, le sont de par leur construction. C'est-à-dire, soit ça a été construit grosso modo avant les années 60, avant même les années 80, on n'isolait pas. L'immeuble de Canu doit dater du milieu du 18e à peu près, ou fin 18e. Effectivement, on n'isolait pas. Il faut isoler. Mais comment il va faire ? Obliger les proprios à isoler ? Alors, il va donner de l'aide, mais ça suffit pas. On sait très bien qu'une isolation extérieure, hein, qui est la seule intéressante dans les locaux d'habitation, c'est difficile à mettre en œuvre. Il y a eu une tentative l'année dernière de loi là-dessus. Tous les architectes, les défenseurs soi-disant du bâti, ont gueulé, et finalement, la loi s'est pas faite. Donc, on sait que là, ça va bien nous faire rigoler. Particulièrement dans un quartier comme le premier arrondissement de Lyon dans lequel se situe Radio Canu, où on a essentiellement des immeubles de Canu, donc grosso modo construits au milieu du 19e. C'est possible de les isoler de l'extérieur en respectant les intégristes de la défense du bâtiment que sont les bâtiments de France. Alors on peut pas mettre des plaques de polystyrène, on peut mettre un revêtement qui est un peu plus qui est plus épais que celui qu'on a actuellement, qui fait 4-5 cm, qui dénature pas les façades et qui permet quand même d'isoler de manière importante. Mais ça marche sur les immeubles de Canu. Dans un immeuble comme les immeubles bourgeois qu'on a dans le centre-ville de Lyon, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Isoler de l'intérieur, c'est quelque chose de très désagréable à vivre. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent et tout ce qu'il annonce comme ça, c'est des paroles en l'air. On notera quand même de ce qu'il a pas annoncé, c'est sur le nucléaire, il n'en a pas parlé. C'était sur le réchauffement climatique et la planète. Alors tout le discours de propagande, c'est que le nucléaire joue pas sur la planète, ça fait que tuer les êtres humains et c'est que potentiellement dangereux. Il a pas parlé de la filière biogaz en consommation pour chauffer en France, d'énergie pour chauffer en France. Il y a dans les maisons individuelles pas mal de fioul, et dans les appartements, ceux qui ont pas de chance sont à l'électricité et les autres ils sont au gaz. Et on sait qu'il est possible de développer une filière 100% biogaz, c'est-à-dire faire qu'il n'y ait plus que du gaz issu des déchets agricoles. Ben là, il n'en parle pas. Et pourtant, ça, c'est faisable. Donc, pourquoi il n'en parle pas on ne sait pas. Bien évidemment, il ne remet pas en cause l'automobile dans le sens négatif sur l'impact environnemental. On rappelle que l'automobile, c'est pas que négatif à cause de la pollution engendrée par les moteurs. On rappelle la pollution engendrée par les freins, hein, les particules, notamment maintenant qu'on a des nanoparticules de carbone dans les plaquettes de frein. Je vous parle pas des problèmes de santé pluie dans quelques années. L'automobile bouffe les espaces naturels, hein, les autoroutes coupent les espaces de vie des animaux, des insectes. Enfin voilà, l'emprise énorme dans les rues des villes de l'automobile, ça y remet surtout pas en cause. Hein. On n'y touche pas. On touche pas à l'automobile, on va changer juste le petit moteur à l'intérieur, mais rien d'autre. Pas de volonté de développer les transports collectifs. Il a pas parlé de l'agriculture. En source de pollution au niveau environnemental, l'agriculture c'est énorme. Et c'est pas l'agriculture bio, c'est l'agriculture productiviste. Parce que les produits chimiques, les engrais, tout ça, faut les fabriquer, ça consomme énormément d'énergie. En plus, ça pollue localement. Là, il en parle pas, il met rien en cause, il développe pas l'agriculture bio. On sent que c'est une belle escroquerie quand même tout son programme. Et il parle pas de la surconsommation, de l'obsolescence programmée, voilà. Ça semble être un discours plan-plan d'un mec de centre-droit. Et finalement, au bout du compte, tout ce qui va aider à l'économie à se développer, ils vont le faire. Tout ce qui va avoir un réel impact sur l'environnement, ils vont pas le faire. Voilà, on le sent bien comme ça. Donc, vous choisissez entre escroc de l'écologie ou écolo. Moi, j'aurais tendance à dire la première
escroc
version. Voilà. Alors ensuite, il a eu toutes les affaires qui fâchent qui sont sorties hier dans le Canard enchaîné. Et oui. Alors, c'est des affaires qui étaient déjà connues, mais là, ils ont rappelé tout le truc. Donc on rappelle quand même que Monsieur Hulot, c'est pas un écolo hein, d'abord. Enfin on rappelle qu'il se déplace en hélicoptère avant hein, Hulot. Donc
oui, si vous êtes un peu jeune, Voilà, bon, on aime bien ces derniers temps faire ça depuis qu'il est ministre. Mais allez chercher les vieilles images sur le site de l'INA de cette émission Ushuaïa, dans laquelle le monsieur Houleux était présentateur, et vous verrez à quel point toute cette émission qui nous parlait de jolis poissons, de corail et de trucs exotiques, il se déplaçait quand même en avion avec une grosse équipe.
Je pense que lui, dans son travail, il a plus pollué qu'une bonne partie de la population française.
Ah bah, je pense que toi, quand tu te déplaces, tu ne pollues pas comme lui.
Bah non, mais déjà, moi, je ne pollue pas. Ah ouais. Donc, le Canard Enchaîné a fait pas mal de révélations. Donc, ils ont laissé entendre qu'il avait failli être sorti du gouvernement à cause de deux problématiques liées à son CV. Les liens avec sa très lucrative société personnelle qui s'appelle Eole Conseil, et aussi les financements privés de sa fondation, donc où on a des doutes quand même sur des conflits d'intérêts. Vous allez voir que c'est des gros doutes quand même. Alors on est au courant de ces infos, hein, de la société Eole Conseil, tout ça depuis un certain nombre d'années. C'était fondé en 90, et on a des infos économiques jusqu'à 2007-2008, parce qu'après il a refusé de les donner. Alors on sait d'ailleurs dans les dernières années, 2013 peut-être la dernière année, il avait touché 256 000 euros, quand même, en une année. Mais bon, il y a un gros bas de laine de 3 millions d'euros, et comme la société lui appartient à 99,9%, ça lui fait, c'est un riche en fait, hein. Nous avons mis un millionnaire au sein du gouvernement, enfin nous on n'a rien mis du tout, mais bon voilà, c'est un écolo millionnaire, hein. il y en a un en France, c'est lui. Donc voilà, alors on rappelle qu'il touche pas mal de royalties de l'exploitation de la marque Ushuaïa, qui a été développée par TF1 en lien avec son émission, les produits Ushuaïa qui contiennent tous des produits toxiques, des produits toxiques pour l'environnement, des produits négatifs pour la santé des personnes. Bizarrement, voilà. Ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi il a reculé il y a quelques semaines sur les perturbateurs endocriniens. Hein, il y a eu un gros recul, on attendait ce qu'il se mobilise dessus, il avait fait un grand discours avant sur les perturbateurs, il a reculé. Effectivement, les produits Ushuaïa contiennent notamment des perturbateurs endocriniens et plein d'autres produits chimiques. Hein, Ushuaïa ne font pas du bio, c'est pas une marque de cosmétiques ou de produits.
Peut-être qu'ils ont développé une...
Enfin, deux, mais
enfin,
voilà.
C'est le problème de toutes ces marques qui sont mis maintenant sur à peu près un pot de yaourt, du savon et puis n'importe quoi et un peu de tout, quoi.
Voilà, donc c'est pas bon signe. Et pour revenir maintenant sur la fondation Nicolas Hulot, là on a appris quand même que dans les mécènes il y avait EDF qui donne 100 000 euros par an. Bon, on sait pourquoi il s'est pas prononcé sur le nucléaire du coup. Vinci, 200 000 euros par an.
Ah bah lourd, quoi.
Il va pas, bizarrement dans le projet il s'est pas opposé. Il a pas dit qu'il fallait arrêter de construire des autoroutes, rien. Hein. Ah bah, il y a Vinci qui donne de l'argent. Veolia. 30 000 euros. Alors, Veolia, ils sont dans le PHE, dans le retraitement, du coup, ça passe plus, ça fait moins conflit d'intérêt, quand même. Hein. Donc, voilà. On attend sa position sur l'EPR de Flamanville, hein, dont l'autorité de sûreté nucléaire a honteusement autorisé la poursuite des travaux. Bon, vu que lui, il a pas mal de conflits d'intérêt, enfin, il est très proche d'EDF qui lui donne 100 000 euros par an. Enfin, je sais pas vous, moi, on me donne pas 100 000 euros par an. Hein. Donc, voilà. Hein. Et le Premier ministre qui a bossé 3 ans chez Areva, je pense que voilà, le nucléaire est sauvé en France. Hein. Vous inquiétez pas, si ça pète, ça sera de leur faute, mais enfin, ça pètera. Ils vont pas arrêter les centrales. Donc, voilà. Alors, toujours dans les enfants environnementaux, on va arrêter avec Nicolas Hulot, parce que bon, quand même, on va s'acharner sur les...
Non, on y reviendra une prochaine fois, c'est ça.
Voilà. On va, il y a justement il y a eu un petit bilan fait sur l'utilisation du vélo en France, qui serait une alternative, mais il n'en a pas parlé. Hein. Ah non, on ne développe pas le vélo, on développe l'automobile. Merde, pour les pauvres. Donc oui, en France, le vélo, ça représente aujourd'hui 3% des déplacements. Ce qui est bien évidemment totalement négligeable et ridicule. Bon, certes, on a noté des progrès dans certaines villes, mais enfin, grosso modo, ça bouge pas beaucoup. Sur les chiffres de l'INSEE qui datent de janvier dernier, si on regarde un peu plus loin, alors là, c'est les chiffres de 3%, c'est les chiffres de janvier dernier. 2 ans avant, c'était 2%. Donc ça n'a pas beaucoup évolué. Vous allez me dire 1% par an, on pourrait y arriver. Dans 100 ans, on serait bon. Mais à mon avis, ça va vite se calmer. Si on regarde la distance facile à utiliser pour le vélo, c'est-à-dire moins de 5 km, c'est vraiment pas beaucoup 5 km. Hein. 10 km à vélo, c'est faisable sans problème. 5 km, c'est vraiment le truc qu'une grand-mère peut faire à vélo. On est à 74% d'utilisation de la voiture et 3% pour le vélo. Alors, inférieur à 2 km, on a 60% de voitures, 4% pour le vélo. Les autres, ils font à pied quand même 2 km. Mais il y en a quand même 60% qui prennent leur bagnole pour faire 2 km, quoi. Donc voilà. Grosso modo, à part Strasbourg, Grenoble et Bordeaux en France, où le vélo dépasse 7%, il n'y a aucune autre ville où le vélo dépasse 7%, c'est quand même totalement la honte. 13% à Berlin, 22% à Anvers ou Amsterdam, 31% à Copenhague. Voilà. Alors, nous, on attendrait quoi? Ben, on attendrait qu'il y ait une impulsion forte soit donné au plan national. D'ailleurs, le 5 mai dernier, il y avait le Conseil national de la transition énergétique, le CNTE, qui a demandé au gouvernement d'adopter une stratégie pour développer, je cite, les mobilités actives, c'est-à-dire vélo et marche à pied, ou trottinette si vous voulez, tous les trucs comme ça, quoi. Tous les trucs non électriques, on ne parle pas du vélo électrique, hein, des trucs non électriques et qui consomment rien, quoi. L'idée, c'est de porter la part du vélo à 12% en 2030, ce qui est ridicule, parce que 12%, ça reste 12,5%, c'est pas beaucoup. On gagnera le jour où on sera à 90%, et où il restera que les ambulances, les pompiers, les keufs s'ils veulent, enfin des choses comme ça. Hein. Voilà. Alors, le CNTE, là, ce Conseil national de la transition énergétique, a expliqué comment faire. Il faut absolument rendre les personnes vulnérables prioritaires sur la route, c'est-à-dire piétons et cyclistes. Il faut préserver la continuité des itinéraires. Aujourd'hui, t'as des voies express qui coupent les pistes cyclables, t'as des autoroutes qui coupent qui empêchent de développer des voies vertes. Enfin, on a plein de choses comme ça. Il faut absolument débloquer ça. Et il faut aménager l'espace collectif public vers les piétons et vers les cyclistes. Aujourd'hui, l'essentiel de l'espace public est occupé par la voiture. Quand vous sortez dans votre rue, vous êtes dans Lyon, vous regardez, il y a un espace pour circuler, donc qui est autorisé à tout le monde, à la rigueur voiture, vélo, etc. Un énorme espace pour les voitures qui se garent, donc qui est totalement inutile, qui est perdu, et un petit espace pour les piétons, hein, qui ont droit à un petit espace ridicule. Donc voilà, il demande de changer ça. Alors, Hulot s'est pas positionné, il a bien eu le rapport, il est au courant de tout, vraisemblablement, voilà. Mais on l'a jamais vu à vélo, ou très peu, moi j'ai pas souvenir, alors qu'on l'a vu beaucoup quand même en hélicoptère.
Oui, il y a une période, il y a quelques années, il s'était baladé, mais comme on l'a vu beaucoup, hein, qui font
semblant,
devant les caméras.
Il va pas bosser en vélo a priori. Bon, je me trompe peut-être, je suis peut-être médisant, mais voilà. Et puis, dernière info sur la première partie longue sur l'environnement. Il y a le G20, hein, qui se prépare en Allemagne, avec une grosse mobilisation d'ailleurs des militants.
Ça a déjà commencé.
Et beaucoup d'arrestations préventives.
Ça a déjà commencé.
Proche des. Voilà, qui n'a rien à envier à la Corée du Nord, à la Chine, tout ça, ces régimes totalitaires, hein, puisqu'il y a de l'arrestation préventive. Hein. Mmh. Vous avez une gueule de zadiste, vous êtes arrêté.
Bah, ça m'a fait penser aux supporters de football, tu sais, qu'on met à la maison avec des interdictions de stade. Ben, c'est exactement les mêmes processus.
Voilà. Et donc, il y a un rapport qui est préparé pour le G20, qui a été fait par l'université de Lappeenranta en Finlande, et qui a été publié du coup par Greenpeace Allemagne. Qu'elle calculait le coût de la production d'électricité dans les pays du G20, donc dans les 20 pays les plus riches de la planète, entre 2015 et 2030, donc ils se projettent. Résultat, aujourd'hui, ce sont les champs d'éoliennes qui génèrent l'électricité la moins chère, donc dans une grande partie de l'Europe, l'Amérique du Sud, les États-Unis, la Chine et l'Australie, et ils prédisent que le solaire va encore baisser et devenir concurrentiel. Le nucléaire est complètement largué, bien évidemment, quand on voit les futures centrales comme l'EPR ou Hinkley Point, en Grande-Bretagne, où le coût de l'électricité est beaucoup plus cher que les énergies renouvelables, on se dit qu'il y a sûrement d'autres intérêts pour développer ce genre d'énergie potentiellement ultra dangereuse en plus. Voilà. Alors il nous explique aussi que ça va dans le bon sens, puisque les 9 dixièmes, donc 90% des nouvelles installations de production d'électricité en Europe l'année dernière concernaient de l'énergie renouvelable. Il n'y a que la France qui construit encore des centrales nucléaires en Europe, hein. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein. Donc on construit très peu, quelques centrales au gaz quand même, puisque c'est utile pour gérer les pointes de consommation, et on ferme petit à petit, notamment l'Allemagne, ferme les centrales à charbon. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a justement lors de la préparation de ce G20, un représentant du gouvernement français qui a bien confirmé que le nucléaire resterait prioritaire en France. Donc voilà, c'est foutu dans ce domaine-là. C'était ma page environnementale, mais je continue brièvement avec deux infos locales. D'abord, une initiative sympathique qui a été relayée par Rue 89 Lyon. Vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans ce sens-là. Ouais. Auvergne d'abord. Ouais.
Dirigée de main de fer par M. Wauquiez.
Et non pas de main de maître.
Non, de main de fer. Voilà. De fer ganté, voilà. Vous avez un truc un peu qui fait mal, quoi. Mais qui est un peu pleine d'eau bénite aussi. Hein. Faut pas oublier l'eau bénite. Il a accordé une bourse au mérite, donc aux lycéens qui auraient mention très bien au bac, quelle que soit leur origine, sans condition de revenu, comme on dit. Hein. Donc, alors quand on sait que le bac est beaucoup plus réussi par les riches, les enfants de familles aisées, on se dit ils vont en plus toucher de l'argent. C'est sympa quand même. Bon, il va pas donner de l'argent aux pauvres non plus, sinon il s'appellerait pas Monsieur Wauquiez. Et il y a des lycéens de Saint-Aix sur le plateau de la Croix-Rousse, lycée public du 4e, qui ont envoyé une lettre en disant qu'ils refusaient. Donc ils avaient eu la mention très bien et qui refusaient ces 500 euros. Je cite, nous refusons d'utiliser cette prime pour un usage personnel, d'autant que cette distribution de fonds publics se fait en parallèle d'un désengagement massif de la région du secteur associatif qui se traduit par un recul des services publics d'intérêt général. Donc ils ont décidé de reverser à une association d'intérêt général, ils ont donné le nom d'ailleurs, c'est le réseau Rhône-Saône qui s'occupe des MJC de la région et de la métropole. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir que ça coûte à la région 3 millions d'euros. Et quand on sait qu'il y a eu des coupes budgétaires très importantes dans tout ce qui était promotion de l'agriculture biologique et paysanne, dans tout ce qui était éducation à l'environnement, éducation à la culture, le droit des femmes, les assos LGBT ont morflé aussi. Voilà, c'est une très belle initiative de ces lycéens du plateau de la Croix-Rousse que l'on salue.
Et puis savoir qu'il y a des jeunes gens déjà militants. Moi, je trouve ça superbe.
Alors, deuxième et dernière info sur Lyon, on a appris dans une grande grand discours de propagande de la ville de Lyon, enfin de la métropole de Lyon et de la mairie de Lyon, le 27 juin dernier, qu'ils allaient doubler le nombre de voies cyclables à contresens. Hein, vous avez une sens unique voiture et vous avez les vélos ont le droit de prendre dans l'autre sens avec un marquage au sol. Ça devrait passer à 180 km. Alors on se rappelle, hein, dans l'instauration des zones 30, notamment la zone 30 dépend de la Croix-Rousse, donc quand on est en zone 30, automatiquement, toutes les rues ont un double sens cyclable. Colomb avait fait passer des arrêtés pour interdire les 90% on va dire, des rues dépendent de la Croix-Rousse, parce qu'il estimait qu'elles étaient trop étroites. Ce qui est vrai sur un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs.
Si t'enlèves les voitures qui sont garées, tu
viens
de l'espace.
Ah mais non, sans bouger. Et la ville de Lyon dit non mais on va développer, on va en mettre de partout. Et d'ailleurs sur les pentes de la Croix-Rousse, ils sont en train de tracer des doubles sens cyclables dans des rues où un vélo et une voiture ne passent pas. Donc quand ça va se croiser, je sais pas comment ça va faire. Hein. Bon bref, ça nous fait marrer qu'il ait changé, mais il nous précise quand même que il faut qu'il y ait une largeur minimale de 2,7 mètres de chaussée, ce qui semble pas le cas notamment rue des Pierres Plantées par exemple. En tout cas ça passe pas. Et il dit bien sûr ça n'aura aucune incidence sur le stationnement et la circulation automobile, bien évidemment il ne faut pas toucher au principal pollueur de la ville de Lyon. Ce qui est drôle, c'est que c'est juste de la propagande. Ils ont d'ailleurs rajouté que Lyon comptait 216 km de pistes cyclables, ce qui est bien sûr un énorme mensonge. Lyon possède quelques kilomètres de pistes cyclables et beaucoup de bandes cyclables. Or, les bandes cyclables sont 99 fois sur 100 inutilisables, puisqu'il y a toujours une voiture ou un camion garé sur la longueur de la piste cyclable. Ceux qui font du vélo le savent très bien. Donc voilà, c'est juste une belle propagande pour dire que ils vont pouvoir augmenter artificiellement leur chiffre de bandes de double sens cyclables. Soi-disant, ils font des choses pour le vélo, mais ils font ce qu'on demande réellement, c'est-à-dire sur les pentes de la Croix-Rousse, enlever une voie de stationnement et développer justement des pistes cyclables, ça serait utile. On n'en veut pas. On voudrait aussi des piétons, enfin des trottoirs sur la montée Saint-Sébastien où les piétons pourraient enfin circuler sans descendre sur la route et prendre des risques. Ça, il n'en est pas question non plus. Bon, voilà, la ville de Lyon continue la propagande, mais ça n'avancera pas pour les habitants. J'ai parlé longtemps, c'est à toi.
Alors, on va donc parler des petits pandas. Alors,
J'aimais bien les pandas, ça avait l'air joli. C'est mignon, le symbole du WWF.
C'est mignon, un petit panda. Alors, tu le disais, il y a le G20 qui débute demain à Hambourg. C'est au tour de Madame Merkel et de ses amis de recevoir les grands du monde. Vous allez comprendre où je veux en venir. Parce que là, comme ça n'a pas l'air gagné avec les pandas. Il y a donc, depuis hier, des manifestations qui ont commencé. Il y a des tentatives de camp d'installation au sein de Hambourg qui se sont fait ramasser. La répression a donc déjà commencé.
Fortement.
Fortement. Il y a une grosse manif aujourd'hui. Et puis, voilà, il y en a une trentaine en tout, hein, selon les bords, plus ou moins gauche, plus ou moins libertaire, très très anard, d'extrême gauche, tout ça. Chacun, chacune pourra retrouver un petit peu sa sensibilité politique. Enfin, toujours est-il que ça va quand même être difficile de circuler, puisque la ville est complètement bouclée, fermée, matée. Faut être très très clair. Donc, je me suis demandé si Madame Merkel avait demandé conseil à Monsieur Xi Jinping, hein, le président chinois. Je vous rappelle que le dissident Liu Xiaobo a été libéré, mais enfin, en même temps, il a un cancer du foie en phase terminale. Il paraît, on a appris ça aujourd'hui, que sa situation s'est absolument dégradée, hein, là, dans les jours qui viennent de passer. Je vous rappelle qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Vous allez me demander, là, je me suis demandé si Mme Merkel avait demandé conseil au président chinois pour quelque organisation de répression au sein de Hambourg. Et là, vous me dites, mais pourquoi tu nous parles de ça par rapport au panda? Eh bien, c'est parce que Mme Merkel et Mme Angela Merkel et M. Xi Jinping se sont retrouvés au zoo de Berlin pour faire la connaissance avec deux panda. Alors, la femelle s'appelle Meng Meng et le mâle s'appelle Xiao King. Ce sont deux pandas qui font partie de la diplomatie chinoise, hein, puisque ça fait plusieurs décennies maintenant que la Chine envoie des pandas à travers le monde en signe de paix et d'amitié. Alors, Mao Tse-tung a été grand participant de cet envoi de pandas.
Le grand timonier, tu veux dire?
Oui, mais depuis les années 90, je vous rappelle que le panda est une espèce protégée, donc la Chine ne donne plus ses pandas, elle les prête. Plus précisément, les loue. Le zoo de Berlin a donc loué pendant 15 ans deux pandas pour faire ami-ami avec la Chine, et tout ça avec évidemment aussi la présence de l'ambassadeur chinois à Berlin au zoo, la présence des équipes politiques de Berlin aussi sous le feu des caméras et des photographes, et avec la présence des journalistes pour donc l'arrivée de ces deux pandas. Alors, ces deux pandas sont arrivés le 24 juin dernier de Chine. Ils sont installés dans une enceinte aménagée toute exprès qui a coûté 9 millions d'euros. Tant mieux, hein, faut plutôt que ces petites choses soient pas petites, excusez-moi, ces grosses choses soient bien installées. Alors, pour 15 ans, il paraît que la location, elle coûte 13 800 000 euros.
Ah ouais, tu veux dire que ça coûte cher quand même?
Ah bah, quand même, c'est une espèce
pour deux pandas.
En danger. Hein, oui, mais c'est pour l'amitié.
Ah oui, c'est en fait, tu
pour l'amitié entre les peuples.
Tu donnes l'argent à un dictateur.
Alors, il faut se souvenir qu'un panda, c'est un animal vénéré en Chine, donc il a en même temps toute une symbolique, hein, cet animal. C'est même pour ça qu'il est utilisé aujourd'hui par la diplomatie chinoise. Le zoo de Berlin a accueilli ces deux pandas, mais il faut bien se dire que c'est un bon coup de pub, hein, pour le zoo de Berlin, qui accueille 3,3 millions de visiteurs par an, quand même, c'est pas mal, mais qui se bien avec ces petits pandas, ces gros pandas, je vais y arriver, accueillir encore plus de visiteurs. Il faut se souvenir qu'en France, il y a un zoo, enfin un parc animalier, comme on dit maintenant, parce que le zoo, ça fait tâche un peu. C'est has-been, puis ça fait tâche, ça fait, on maltraite un peu nos animaux. Donc le zoo animalier de Beauval a négocié pendant 5-6 ans pour obtenir son panda en 2012. Un couple de pandas, précisément, parce qu'en général, on les fourgue par deux, parce que l'idée, c'est que ça fasse des
bébés.
Des bébés, parce que bébé égale encore plus de visiteurs. D'ailleurs, je me suis rendu aujourd'hui sur le site du zoo de Beauval. Et l'idée, c'est bien ça. La grande question, c'est un bébé panda pour 2017. Parce qu'ils espéraient en avoir un, là, dernièrement, puis ça a foiré. Mais l'idée, c'est que ça arrive, parce que c'est quand même une vraie question. Qui pour le profit, hein, parce que les zoos, derrière, eh ben augmentent leur fréquentation. Donc, à côté de l'amitié entre les peuples, il faut bien le dire que derrière, on a quand même un profit sur le dos de ces animaux. Nous, on n'est pas fans des zoos dans cette émission.
Ils n'ont pas quand même un super espace pour vivre. Enfin, je veux dire, ils sont prison quelque part.
Même s'ils ont de l'espace, ça reste un enfermement à l'autre bout du monde. Pour
en
un animal qui a rien à foutre.
C'est pas du tout leur région.
À Berlin, excuse-moi, quoi. Donc, moi, je voudrais donner un petit conseil aux manifestants de Hambourg, c'est essayer de vous déguiser en panda. Hein, je me dis que peut-être que les flics.
T'apprends moins fort.
Ah ouais, peut-être qu'ils vont vous trouver hyper mignon et que vous serez hyper gentil, hyper dans votre petite noir et blanc, là, petite fourrure. Le matraquage sera peut-être moins virulent, allez savoir, c'est la paix entre les peuples. Et on va continuer avec une autre histoire d'animal.
Du relouf ?
On va parler. Alors, il y a un adage qui dit dans le cochon, tout est bon. Ouais, et ben nous, on ajoutera sauf dans Hoxha.
C'est ça.
Alors, Hoxha, ce film
quand même.
De Netflix, qui, je vous rappelle, a fait polémique à Cannes. On en a parlé ici, puisqu'il ne sortait pas dans les cinémas français, mais en même temps était dans un festival. Et donc, un film produit par Netflix, un film de Bong Joon-ho. Je vous rappelle, Bong Joon-ho, c'est Memories of Murder.
Super
c'est
film.
Magnifique. Le premier, enfin, un film sur le premier serial killer. En Corée du Sud. Un film absolument magnifique. Le transpersonnage que tu aimes beaucoup plus que
j'adore.
Moi, je trouve le film extrêmement ennuyeux, mais ça, c'est mon avis. Je trouve qu'on s'emmerde dans ce film au bout d'un moment. Mais je n'étais pas fan de la BD, mais quand j'ai relu la BD après le film, eh ben, j'ai beaucoup plus la BD accepté. Le nom des deux créateurs de la BD de français, c'était ça. Je ne l'ai plus sous les yeux. Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette.
Ouais.
Voilà, pour, si vous avez envie de relire la BD. Et puis surtout, Bong Joon-ho, pour moi, c'est The Host, film catastrophe avec bestiole. Vraiment qui symbolise aussi le cinéma sud-coréen que j'adore. Si vous l'avez pas vu, eh ben c'est le moment. Et si vous avez oublié, il faut absolument revoir ce film. Mais ce soir, on va parler de Hoxha. Hoxha, on s'est demandé si c'est un conte cynique, une farce anticapitaliste, un film sentimental, une fable morale pour les enfants, ou comme j'ai pu le lire, un film d'aventure fantastique. On va déjà rappeler peut-être l'histoire de Hoxha. Hoxha, c'est le nom d'un super cochon.
Transgénique.
Transgénique, c'est ça. Développé génétiquement par une multinationale de l'agroalimentaire qui s'appelle Mirando.
Ça ressemble un peu à Monsanto, quand même.
C'est...
fait exprès.
Un peu, exactement. Alors, Hoxha, c'est précisément une truie, une énorme truie, grosse comme un éléphant.
Oui, ça n'existe pas. Hein.
Enfin, voilà, tout en image de synthèse, c'est plutôt beau, hein. Ouais, faut dire à l'image, ça passe plutôt bien. C'est un nouveau produit alimentaire qui est censé être lancé avec une grande opération marketing. L'idée, c'est d'envoyer une dizaine de ces porcelets génétiquement modifiés dans des élevages traditionnels à travers le monde. Et un de ces porcelets, donc une petite truie, Hoxha, va se retrouver dans la montagne sud-coréenne, auprès d'un fermier, effectivement, très traditionnel. Hein, papy va donc s'occuper de Hoxha. Et tout ça, c'est dans l'attente d'un super concours entre le concours agricole et la télé-réalité, pour savoir qui a fait le plus beau cochon.
Le plus beau cochon,
nouvellement, donc de cette nouvelle espèce, cette nouvelle race de cochon. Et donc, on se retrouve 10 ans plus tard avec un démarrage... très péchu hein, au niveau de ce film. On se retrouve donc avec Hoxha dans la montagne sud-coréenne avec un homme et sa petite fille Mija, jouée par Han Seo-hyun, et Mirando vient récupérer sa viande, hein, il faut bien le dire comme ça, son super cochon pour le rapatrier à New York puisque c'est Hoxha qui a gagné le grand concours. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on ne vous dévoile rien du film puisque c'est là où tout commence, c'est l'amour. Puisque finalement, ce film, c'est Belle et Sébastien.
Voilà, ça. Si vous avez vu Belle et Sébastien, donc la relation un peu particulière d'un être humain avec un animal, c'est la même chose. Un cochon, ça a assez peu de rapport avec les êtres humains en général. Hein. C'est pas quelque chose de très sympa, ça fait pas des câlins, tout ça. Là, ils ont humanisé au maximum cet animal.
Même
c'est
dans
super
les larmes,
artificiel. Voilà, ouais. Ils pleurent, ils se font des câlins. C'est vraiment un truc pour enfants de moins de 10 ans.
On
hein,
nous enfin, pose je... aussi Hoxha comme un être malin, intelligent, ouais. Prêt à sauver sa maîtresse, hein, parce que c'est quand même aussi ça l'idée. Et puis, alors nous, pour vous dire tout de suite, on n'a pas adoré ce film. Moi, ce qui m'a un petit peu énervé, c'est qu'on se retrouve avec des personnages outranciers, à la limite du ridicule qui masque finalement un petit peu le propos.
Ouais, ils sont même tous ridicules.
Alors Tilda Swinton qui joue Lucy Mirando, la PDG, l'une des sœurs jumelles, PDG de cette entreprise de l'agroalimentaire, veut donc redorer l'image de la firme familiale à travers du capitalisme vert, hein, du greenwashing, comme on dit. Sauf qu'elle en fait quand même un petit peu des tonnes, il faut bien le dire. On a Jack Janet Hall, j'arrive jamais à dire son nom, qui joue le docteur Johnny Wilcox, donc c'est censé être un peu le méchant fou médecin.
Vétérinaire, ouais.
Il est quand même assez hystérique, même si je le trouve plutôt bien en tant que comédien, hein, il faut le dire, mais Il y a un moment quand même, il est fatigant. On se retrouve avec un Paul Dano qui joue un membre de le Front de Libération Animale.
Lui, il est pas mal. Il est caricatural, mais on peut se moquer de lui, c'est assez drôle.
Il est un peu niais quand même. Ouais. Mais voilà. Alors, on trouve aussi Frank Dawson, qui est joué par Giancarlo Esposito. Vous vous souvenez peut-être de ce comédien, puisque j'ai pas le nom de cette série. Ça va me revenir. Il jouait je t'en ai parlé il y a quelques jours.
Oui.
Oui, il jouait le mafieux qui vend du poulet. Ça va nous revenir.
Heisenberg,
encore.
Là, j'ai perdu le nom de la série.
Voilà. Mais enfin, je suis sûr que si vous y connaissez un petit peu, donc un truc sur la weed.
Non, pas la weed.
L'ecstasy. Excusez-moi. L'hydrochimique, on va y arriver. Je ne l'ai pas écrit dans mes propos, donc du coup, on est tout perdu. Donc, on a quand même des personnages qui sont très, très caricaturaux, mais des fois sont drôles. Moi, par exemple, qu'on se moque des militants, ça me va, mais je veux dire, même des militants dans lesquels moi je peux être, du militantisme, il faut savoir rire de soi-même. Donc, ce n'est pas le souci. C'est juste qu'on a quand même cette ribambelle de personnages qui en font beaucoup. Le film est quand même assez bruyant, il faut le dire aussi. Et puis, on a quand même la problématique de ce cochon qui est humanisé, comme tu le disais tout à l'heure, qui est malin, qui est sensible. Et du coup, en fait, on a voulu faire en France de ce film un film vegan pour la cause animale, ce que le film n'est pas du tout.
Non, ça n'a pas cette prétention-là. D'abord, ça se moque beaucoup trop des militants du Front de Libération Animale pour que ce soit un film de défense des animaux. Et puis, à la fin, ils sauvent pas les animaux. Hein, donc, faut pas se leurrer. Il y a juste une relation particulière entre un cochon humanisé et une petite fille. Ça va pas plus loin que ça. Alors, ça dénonce quand même un peu le capitalisme, pour le coup.
Ah bah bien sûr, oui.
Contre, la critique elle y est, mais sinon non, enfin c'est pas un film vegan. D'ailleurs, la petite fille mange du poulet, c'est son plat préféré.
Au début, elle bouffe des œufs, donc voilà, elle est pas elle-même végétalienne, non. Elle est pas tout dans ce discours-là.
Il y a beaucoup de récup en fait sur ce film, bizarrement. Moi je trouve c'est ça qui est
c'est ça en fait qui est gênant finalement.
Plus bizarre. Ouais. C'est que il y a certains véganes qui le récupèrent en disant c'est un film vegan, d'autres pour qui c'est un film anticapitaliste. Non, c'est juste un film niais, artificiel. Enfin voilà, un truc pour les enfants, quoi. Enfin voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi.
Giancarlo Esposito, Breaking Bad, voilà. Série à voir si vous l'avez jamais vue. Même Bong Joon-ho, je crois qu'il est un peu dépassé, même lui, par finalement la teneur qu'on a voulu donner en France. Quand moi je lis dans Next Libération qu'il a fait un film subversif, je crois que là la critique parisienne, il faut qu'ils sortent, qu'ils retournent militer, qu'ils sortent un peu de chez eux, parce que le film n'est pas subversif. Il a d'autres qualités, ça déménage, ça bouge, il y a des moments qui sont très très drôles avec cette espèce d'humour corrosif sud-coréen que moi j'aime beaucoup, qu'on retrouvait déjà dans ses films précédents. On est quand même face à un animal de compagnie. Et puis il y a des trucs qui ont su marquer les gens, c'est qu'on a un parallèle avec les camps de la mort.
Et
les abattoirs.
Mais c'est un peu ça quand même, un abattoir et un camp d'élevage.
Je mettrais quand même un écart. Moi j'y mets quand même de l'écart. Il nous fait là-dessus une espèce de parallèle.
Puis pour les défenseurs des animaux, le cochon il n'est pas libre. Hein. Il vit dans une ferme. Alors bien, il se balade avec la fille à un moment, mais il n'est pas libre. Hein. Il ne peut pas se barrer où il veut, il n'est pas autonome. Enfin, c'est non.
Moi je me suis demandé un petit peu ce qu'on pensait du coup végétaliens ou véganes. Et ben en fait ça dépend vraiment les sites. Globalement, c'est pas tant la critique de ces militants qui gênent les gens, c'est qu'en fait c'est pas du tout un film végan et que en fait du côté des véganes, on accuse le film de faire manger du poulet et des œufs à la gamine et que finalement c'est pas un film politique. Et ben oui, mais c'est un film d'action. C'est une jolie fable pour enfants, très chouette. Alors bon, il y a des scènes un peu dures, on y emmènera peut-être pas les tout petits quand même, il faut quand même pas déconner non plus. Quitte à revoir un de ces films, moi je préfère The Host. Là pour le coup, il y avait aussi en plus un vrai discours politique à l'intérieur. C'est un film semi-raté. C'est pas déplaisant. Mais il faut le prendre pour ce que c'est voilà, plein de personnages colorés, de l'action, une musique tonitruante, et puis un film international. Ce qu'on reconnaîtra quand même à la valeur de Netflix, c'est que Netflix a laissé Bong Joon-ho faire ce qu'il voulait avec son film, et la moitié du film on parle coréen, ce qui pour un film international est plutôt quand même pas mal, parce que on est quand même dans un système à l'anglo-saxonne, donc c'est plutôt bien.
Ce qu'on notera, c'est que pour voir le film, il faut soit être abonné à Netflix, soit le télécharger légalement. Puisqu'il n'y a pas d'autre voie légale.
Ou d'avoir des amis qui sont avec Netflix.
Voilà, enfin, voilà, voilà. Des mariés. Donc il n'y a pas d'autre alternative.
Et moi, je terminerai par une remarque absolument pas végétarienne. Tout c'est, si vous voulez manger du porc vraiment très bon, il faut aller sur Jeju-do, c'est une île dans le sud de la Corée du Sud, qui fait un cochon noir, ça fait penser un peu au noir de Bigorre. Barbecue sud-coréen, c'est une petite merveille.
La viandarde, elle va se taire.
Voilà. Non, mais il faut le dire, il faut le dire, le cochon, ça peut être bon, pas comme Okja.
Ouais,
voilà. Alors je vais continuer donc avec le cochon. Puisque cette histoire de cochon, on m'a demandé, mais on en est où dans le cochon en France d'ailleurs? Alors ça tombe bien parce qu'il y a eu un tas d'assemblées générales dans les organisations de professionnels du cochon en France. Il faut savoir que depuis un an, ça va bien. Les cours du cochon ont remonté. En particulier, en France, on s'est remis à manger du porc. Et puis, il y a une demande à la chinoise qui fait qu'il y a de très belles exportations du porc français en Chine.
Du porc industriel.
Oui, bah peut-être. Mais il y a une très belle exportation. Il faut être très fier quand même de ces exportations françaises, paraît-il.
Ah bon ?
Paraît-il, hein, paraît-il. Et puis, donc l'élevage a retrouvé une rentabilité et il paraît que même les éleveurs ont réussi un gros effort de productivité et d'amélioration technique. Je cite, puisqu'ils ont réussi à faire grossir les cochons pour qu'il y ait plus de viande dessus. On a beau être des viandards, il y a quand même des trucs, vous savez, on est quand même un peu écolo dans cette émission, donc vous allez voir que je vais être quand même malgré tout assez critique. Comme du coup la crise est un peu derrière, comme j'ai pu le lire, les producteurs et les éleveurs réfléchissent à l'avenir de la filière et comment tout ça doit se passer maintenant. Et à la Fédération Nationale Porcine, dont l'Assemblée Générale s'est tenue le 13 juin dernier à Paris, on se demande comment vendre maintenant le cochon. C'est quoi les débouchés de la production porcine, puisqu'on a fait un bilan très simple, c'est que le consommateur ne cuisine plus. Alors, c'est pas qu'il cuisine plus que la viande, c'est que d'une manière générale, le consommateur et la consommatrice ne cuisinent plus. Donc c'est comment finalement produire des trucs tout prêts. Et le porc en fait partie. C'est-à-dire que là où la volaille, il y a eu un vrai développement hein, du truc pané tout prêt, et vous en trouvez même en bio, c'est absolument une horreur. C'est comment faire avec le porc pour que ça apparaisse aussi dans des préparations toutes faites et pratiques pour le consommateur et la consommatrice. Donc c'est sur ça qu'en ce moment, la filière est en train de travailler. Alors la filière, ça va du producteur au vendeur, c'est en entier. Il paraît qu'il y a une inadéquation de l'offre aux nouveaux modes de consommation. Donc il faut développer le snacking. Vous savez, c'est apparu dernièrement, ce mot, c'est très à la mode, c'est le manger vite, globalement. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, explique qu'il faut aller chercher la plus-value. Donc vous aurez bien compris, le cochon c'est du produit, on est bien d'accord.
C'est du business.
C'est du business, c'est un produit comme un autre, comme une paire de baskets. Mais il y a quand même le problème, c'est que les consommateurs et les consommatrices ont des petits signaux d'alerte sur les histoires de maltraitance avec les animaux.
Surtout qu'on a plein d'images des cochons là détruits qui avaient des cages avaient la forme de la truie pour pas que...
J'allais en parler plus tard, mais je peux le faire tout de suite. L214 a ressorti des vidéos, une vidéo qui est commentée par Arthur. Mais c'est des images qu'on connaît depuis 10 ans, 15 ans. Il y a un moment, il faut arrêter aussi ces femelles qui sont coincées dans ces grillages, les porcelets qui sont jetés morts sur des tas. C'est glauque, c'est clair. Voilà. Donc ils en ont ressorti et ils se sont attaqués à la marque Enaf, mais je vais y revenir après si vous voulez bien. Donc là, dans la filière, l'idée, c'est de développer le label rouge et le bio pour avoir une meilleure image. Le problème pour certains producteurs et pour certains de la filière, c'est que à force de vouloir faire du label rouge et du bio, on montre du doigt ceux qui ne font et celles qui ne font ni bio ni label rouge. C'est-à-dire qu'on risque en fait de marquer le secteur du fer rouge. Et donc, ils ont une bonne idée, c'est qu'il faut développer le porc français. Alors, c'est pas nouveau cette idée du porc français, mais ils se sont dit que là, il y avait de la vraie valeur ajoutée, qu'il soit bio, label rouge ou pas, puisque c'est français. Donc, si c'est français, c'est que c'est bien. Voilà. Je vais y revenir par la suite avec les algues. Mais on se rappelle qu'en France, le porc, il vient d'où ? De Bretagne. Et que c'est un porc industriel et que ça cause un souci énorme au niveau environnemental. Mais c'est surtout que c'est une vraie industrialisation du cochon, de l'animal, il faut être très très clair. Ce qui est très drôle, c'est que l'INAPOR, qui est un truc interprofession du port, va lancer une charte intitulée « Port, respect, confiance ». Il n'y a même pas de mots, vous voyez, enfin, c'est juste « Port, respect, confiance ». Je pense qu'on va avoir des belles plaquettes qui vont nous expliquer que il faut avoir confiance hein, dans la filière du cochon. Tout va bien se passer, on ne va pas manger forcément bio, mais ça sera français. Hein, ça, c'est vachement classe quand même. Bon, quand on voit qu'en même temps les ports français se retrouvent en Chine, on se dit que la mondialisation, elle pète des câbles hein, quand même. Et puis il reste quand même une vraie question, c'est la question de la castration à vif du porcelet. Alors ça aussi, ça fait quand même...
Oui, c'est un peu glauque.
C'est glauque, ça fait longtemps aussi qu'on en parle. Il faut savoir que la filière s'est engagée à cesser cette pratique en France d'ici 2018. On y est bientôt, hein, en 2018. Alors, j'ai appris sur paysanbreton.fr que la filière était proactive sur cette question de la castration des porcs. La filière s'est réunie à Plérin le 12 juin dernier pour échanger sur les alternatives. Alors, il faut se souvenir pourquoi il y a une castration des porcs, des mâles, du porcelet. C'est une technique qui date à peu près de l'après-guerre, qui s'est largement généralisée après-guerre. Ça permet d'obtenir un porc plus gras, ça évite qu'il se foute sur la tronche, hein, les cochons. Et puis ça évite l'odeur, puisqu'une fois que le cochon a passé la maturité sexuelle, quand on le tue, ça pue. Donc pour éviter ça, parce que en fait la problématique c'est que le porc entier il est encore vendu à la rigueur, quand on vous le met dans une sauce et qu'on vous le vend en barquette, ça sent plus rien parce que de toute façon le porc a plus de goût quoi. Mais vendre du porc entier, ça se fait encore dans des boucheries, hein, d'autres commerces ou même des supermarchés, et ça pue. Donc pour éviter ça, ben on castre les porcelets. Il y a des pays qui vendent, qui tuent le cochon avant la maturité sexuelle, ouais. Ce qui fait que ça pue pas. Mais en France, comme on veut des cochons très très gros, bah on attend au maximum pour les tuer, et donc il y a cette problématique de l'odeur. Et donc il y a des chercheurs hein, qui travaillent sur comment enlever l'odeur du cochon quand il est vivant. C'est très sérieux, il y a déjà eu une première phase, il y en a une deuxième phase. Pour l'instant, ils n'ont pas bien encore trouvé, parce que la problématique, c'est comment garder le profit de la filière, donc d'avoir du cochon toujours très gros et très gras, et que ça, pour l'instant, ils n'arrivent pas bien à ce que la filière reste performante sans faire souffrir l'animal. Voilà. Mais il faut arrêter de rêver. Donc, je le disais tout à l'heure, L214 a ressorti une vidéo, s'en prend donc au pâté Enaf. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas bouffé une boîte de pâté Enaf depuis...
Je sais même pas si j'en ai déjà mangé, moi.
Ben, moi non plus. Je me suis posé la question, en fait. Mais c'est vrai que c'est un truc assez connu.
Typique,
hein. C'est
ouais.
Les boîtes bleues qu'on trouve dans les supermarchés. Donc, c'est Arthur H qui commente cette vidéo. Bon, il nous explique qu'il faut manger des alternatives végétales plutôt que de manger les cochons pour leur épargner les souffrances. On est bien d'accord, sauf que nous, on continue à manger de la barbaque, hein, donc on va pas le contredire, hein, voilà. Oui, on va pas non plus certainement contredire L214 sur la barbarie de ces élevages industriels bretons. Alors, Enaf explique que donc c'est des vidéos qui auraient été faites auprès de sous-traitants de Enaf, hein, l'entreprise Enaf, qui est une entreprise toujours familiale, on peut déjà le dire. Et Enaf dit qu'en fait c'est pas vrai, ça serait pas ses sous-traitants. Donc c'est facile parce que L214 n'amène pas la preuve de ça. C'est-à-dire qu'elle met le logo sur sa vidéo d'Enaf, mais ça suffit pas à prouver que derrière c'était bien des sous-traitants qui ensuite vendent donc à cette entreprise Enaf. Donc c'est un peu toujours la même chose, hein, chacun se tape dessus. C'est 232 salariés hein, pour l'instant, et je ne savais pas, mais Enaf exporte quand même encore dans 35 pays. C'est quand même, ça reste quand même une grosse boîte hein, familiale, mais ça reste une grosse boîte. Le pâté Enaf, c'est quand même 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc on comprend bien qu'à chaque fois que L214 sort une vidéo, il y a l'entreprise qui a besoin de répondre. Et d'ailleurs, des formations en cours en ce moment dans les filières l'animal, que ce soit les filières bovines, porcines ou de la volaille, pour expliquer aux entreprises comment répondre. Parce qu'entre celles qui répondent trop vite et celles qui répondent pas du tout, il y a des gens, des experts qui expliquent comment bien répondre aux vidéos de L214, qui à mon avis fait une erreur, c'est qu'elle en sort trop souvent. Et donc du coup, on perd la violence de l'image. Parce qu'il y a le spectaculaire qui intervient au début. Et puis une fois que vous avez vu un poulet qui s'abîme, deux poulets qui s'abîment, le problème c'est que les gens ne font pas de retour sur eux-mêmes. Parce que comme ils bouffent les œufs industriels par exemple, ben il n'y a pas de travail sur soi, parce que on n'a pas envie de se dire merde qu'en vrai c'est les animaux qu'on bouffe et que on n'a pas envie de faire une critique de soi-même. Donc à mon avis, il faudrait lever le pied pour garder le côté spectaculaire du contenu de ces vidéos, hein, qui est c'est assez horrible, il faut bien le dire. Donc le bien-être animal, c'est un vrai faux phénomène de société pour moi qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire que on entend plein de gens qui disent ah là là les pauvres animaux c'est mignon, mais il suffit pas à mon avis d'être végétarien, et c'est des gens qui mangent de la barbac hein, qui sont en train de vous faire une leçon de morale quand même, autant vous le dire. Mais être végétarien pour dire que les animaux c'est mignon, ça souffre, mais si à côté on continue à bouffer des œufs avec des poules élevées en batterie, qu'on continue à bouffer des yaourts industriels, même bio hein, ça reste sur des situations industrielles, et ben c'est une production qui est aussi merdique pour les animaux, il faut bien le dire. Donc c'est à mon avis soit on est vegan soit on mange de la barbac, mais vouloir être végétarien parce que ça fait souffrir les animaux, c'est un peu court à mon avis. Voilà, c'est un peu comme le panda, c'est joli, ben non c'est pas joli, c'est un animal sauvage qui est méchant, proche de l'ours hein, quand même, rappelons-le. Et puis le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui on a tout un tas d'émissions sur les animaux qui font un carton à la télé. Moi je citerai juste Une saison aux zoos, que vous connaissez peut-être, qui passe sur France 4. Moi j'ai découvert, c'était quand même la 7e saison, donc ça se passe au parc zoologique de La Flèche, parc animalier La Flèche, où on suit le quotidien de soigneurs et des animaux. C'est mignon, c'est tout beau, c'est tout plein, et on entend quand même des soigneurs qui disent mes animaux. Alors là, moi, je me dis, il y a quand même un souci. Et ces parcs marchent extrêmement bien en France. Donc, à la fois, on a des gens qui sont pour le bien-être animal. Et en même temps, on continue à aller dans des parcs animaliers.
Oui, mais on voit plus d'animaux dans la nature. Donc, si tu veux voir des animaux, il faut aller dans des parcs.
Eh ben ouais, mais du coup, on a un vrai problème, en fait, plus général, à se remettre en cause hein, sur cette question-là. Puisqu'aujourd'hui, l'animal, c'est quand même l'amuseur hein, de nos loisirs. Hein. On va dans tous ces parcs zoologiques animaliers qui marchent très très bien en France. Il y a des tonnes d'émissions à la télé qui font des cartons d'audience. Et en même temps, voilà, on continue en même temps à produire de la merde et à la bouffer. Il faut bien être très très clair. Voilà. Alors je pourrais dire aussi que, tiens, on va continuer juste avec Manu Chao. Vous avez peut-être entendu, Manu Chao se fait une petite tournée cet été. Vous l'aviez oublié ? Nous un peu. Enfin, moi de mon côté, j'avais oublié Manu Chao, faut bien le dire, quand même, c'est une autre époque. Manu Chao, là, donc, fait quelques concerts de soutien aussi. Et puis, il a décidé, donc, de. Enfin, il a été invité au festival El Clandestino, qui est organisé du 15 au 16 juillet prochain. Et Manu Chao, entre-temps, a exprimé son soutien à Lumière sur les pratiques d'élevage et d'abattage, qui est comme L214, hein, s'intéresse à ce qui se passe dans nos abattoirs et dans les élevages des animaux. Il a invité l'association à venir s'exprimer donc sur scène lors de ce festival El Clandestino. Et ça a eu le bonheur, la joie, l'énervement de foutre un pétard, si vous me pardonnez l'expression, les jeunes agriculteurs de la Creuse. Donc là, on est proche de la FNSEA. Ça leur a pas plu du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que c'est un festival qui se fait avec des fonds publics et que aller critiquer l'élevage dans un département qui vit de l'élevage, c'est se moquer du monde globalement. Alors tout ça, ça a mis tout le monde en pagaille parce que c'est pas le festival qui avait invité cette association, c'est pas l'association qui avait demandé à venir, c'est Manu Chao qui a fait son bonhomme et qui a décidé de donner la parole. C'est plutôt sympathique.
Oui, et je pense qu'il n'avait pas imaginé qu'il y aurait autant de
réactions. Et il n'avait pas imaginé cette polémique. Alors du coup, pour désamorcer tout ça, c'est l'association qui a décidé de refuser cette offre généreuse de Manu Chao en disant c'est bon, on va laisser le festival se faire. C'est une première édition. Il y a des gens qui participent à ça. C'est un endroit pour les jeunes sympathique, plutôt avec engagé, on va dire, quand même, dans l'idée aussi de faire ce festival. Et donc, il y aura d'autres moyens pour nous d'intervenir. C'est le propos de cette association. C'est plutôt bien. Effectivement, ils auront d'autres moyens de venir. Ça se trouve, ils tiendront même une table de presse. Et puis, si ça se trouve, ils monteront quand même sur scène, sait-on jamais. On leur donnera peut-être quand même la parole parce qu'en fait, les jeunes agriculteurs de la Creuse avaient décidé de bloquer le festival. Quand on va sur le site du festival, c'est vraiment un truc de baba cool. Hein. Je cite, le festival se veut un havre de paix, de fête et de résistance. Donc, on n'est pas là pour être énervé. On est là pour passer un bon moment ensemble, avoir aussi un petit peu du discours politique. On a des vieilleries sur scène comme Manu Chao, les Ludwig par exemple. On a aussi Morcheba, on peut pas dire que ça soit tout à fait récent. Bon, on a Kenny Arcana, voilà aussi. Hein, on peut aussi critiquer certaines choses. Et puis d'autres groupes du coin, voilà aussi, plus jeunes que personne ne connaît à part les gens du coin ou quelques gens amoureux de la musique. Donc c'est un endroit plutôt cool et que donc les jeunes agriculteurs de la Creuse veulent venir l'envahir, bah, ça emmerde regarder un peu tout le monde. Moi, j'espère quand même que l'association arrivera à s'exprimer et qu'ils trouveront un moyen détourné de dire zut aux jeunes agriculteurs et qu'il ferait mieux de demander un débat, en fait.
Ouais.
Et puis de changer de, simplement leur processus de production aussi.
On va aller aux États-Unis avec une petite info drôle, en fait. C'est juste un truc drôle. On va aller dans l'Arkansas, donc état de la ceinture de la Bible, aux États-Unis, donc état plutôt à la droite, voire à l'extrême droite, religieuse, chrétienne. Et du coup, ils ont installé devant le Capitole. Alors, le Capitole, hein, c'est l'équivalent du Parlement de l'État. Hein, c'est un État fédéral, on rappelle les États-Unis d'Amérique. Ils ont installé les tables de la loi, donc ces fameux 10 commandements. Là, les tables, si vous avez vu le film, moi je connais que le film avec Charlton Heston, là. Donc on a...
Ah bah bientôt, bravo pour...
C'est ma seule référence religieuse.
Bravo pour la référence.
Je suis désolé. Donc ils ont installé ces tables devant le Capitole de l'Arkansas. Et il y a un mec qui a pas aimé. C'était il y a quelques jours, le 27 juin. Et alors c'est des tables en pierre, hein, gravées, tout ça. Enfin, donc il a voulu les abîmer. Il sait pas comment faire. Il est arrivé, il a foncé dessus avec sa voiture et il en a fait tomber. Il les a abîmées. Et voilà. Alors c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait fait ça aussi à l'Oklahoma. Dans un monument aussi aux 10 commandements, il trouvait ça horrible. Et alors, officiellement, il paraît que c'est un chrétien, mais que lui, il dit, mais non, il faut séparer l'État et la religion, et donc l'État a pas affiché comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi, je trouve ça très drôle et très sympa d'avoir fait ça, d'essayer de dire, bah oui, la religion, c'est un truc personnel et ça doit pas être un truc imposé par l'État ou grandiloquent comme ils le font. Et donc voilà, il a abîmé l'étape de la loi. Voilà. Bravo mon petit gars. T'as peut-être pas les bonnes raisons, mais au moins t'as fait un truc un peu marrant. Alors on va parler dans cette rubrique facho et autoritaire. On va commencer par Gérard Collomb, donc ancien maire de Lyon et ancien président de la métropole de Lyon, et aussi ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Alors ce matin, et à partir d'hier en fait, mais il l'a fait aussi ce matin, il a demandé aux élus de l'Assemblée nationale de le soutenir massivement, je cite, pour prolonger une sixième et peut-être dernière fois l'état d'urgence qui est présent en France depuis les attentats, les premiers attentats d'il y a quelques années, il y a 2 ans. Alors il explique que la menace terroriste demeure à un niveau extrêmement élevé et il a rappelé que 239 personnes ont perdu la vie depuis janvier 2015, la première attaque contre l'hypercacher, contre Charlie Hebdo, etc. Alors 215 personnes, ça fait pas grand chose par rapport au nombre d'accidents du travail, au nombre de morts sur la route, etc. Hein, on fait pas un état d'urgence contre les bagnoles, on fait pas un état d'urgence contre les patrons qui mettent en danger la vie de leurs salariés, mais par contre, voilà, on le fait contre ces attentats organisés par des religieux, des croyants. Donc voilà, bon, alors il a essayé de convaincre en disant qu'il y avait quand même un scénario prévu de sortie maîtrisée, dit-il, de l'état d'urgence, puisqu'ils ont prévu de transposer dans la loi certaines mesures de l'état d'urgence. Donc on va vers le pire en fait, grosso modo, hein, parce qu'il n'y aura plus d'état d'urgence, mais il y aura les mêmes mesures dans la loi. Donc on rappelle, hein, que l'état d'urgence date de la guerre d'Algérie, hein, dans la version moderne. Ça autorise tout. Quasiment, les perquisitions administratives, la fermeture des lieux de culte, des lieux de résistance, ça a fait des assignations à résidence, alors pas que des apprentis terroristes, hein. On a eu des manifestants, des militants qui ont été assignés à résidence, enfin des choses comme ça. Alors, Gérard Collomb dit entendre le doute qui émerge sur sa réelle efficacité. Effectivement, beaucoup de gens remettent en cause l'efficacité. Effectivement, ça semble pas très efficace. C'est une mesure d'atteinte aux libertés forte, qui est surtout symbolique pour assurer le petit bourgeois. C'est fait pour ça. Mais il a expliqué, mais regardez, ça atteint pas la liberté, puisqu'il y a toujours des manifestations sportives et des spectacles. Alors on rappelle qu'il y a quand même des manifestations sportives et des spectacles qui ont été annulées au nom de l'état d'urgence. Et puis on a eu des manifs aussi qui ont été un peu abîmés, empêchés à cause de l'état d'urgence. Donc bon, il a jamais aimé les mouvements sociaux, Gérard Collomb. Mais bon, voilà. Alors ça a fait réagir. Il y a eu, en dehors des réactions personnelles des militants, des organisations un peu importantes comme Amnesty International, Human Rights Watch, la Ligue des Droits de l'Homme, qui sont le syndicat de la magistrature, qui sont mobilisés, qui ont fait des textes, qui ont expliqué que maintenant l'état d'urgence était non seulement inefficace, non seulement inutile, non seulement inadapté, mais en plus liberticide. Donc ils ont appelé les parlementaires à ne pas voter. Voilà. Ils ont d'ailleurs rappelé que la nouvelle loi antiterroriste qui a pour but de normaliser les mesures de l'état d'urgence, c'est-à-dire grosso modo la logique de soupçon. Vous êtes telle religion, hop, vous êtes potentiellement dangereux. Vous êtes militant de telle manière, vous êtes potentiellement dangereux, etc. Sans qu'on ait de preuves réelles, c'est ça la problématique de l'état d'urgence et de ce qui est prévu dans la loi, mais ils rappellent que c'est effectivement très dangereux pour les libertés publiques. Donc ils ont appelé, ils ont essayé de mobiliser pour que les élus ne votent pas, et c'était aujourd'hui, et malheureusement, donc ils ont voté, bien évidemment, la main sur le cœur, ou je sais pas ce qu'ils font, ou sur la Bible, ou je ne sais quoi. Ils ont voté le prolongement, pour la sixième fois, de l'état d'urgence, donc du 15 juillet au 1er novembre, et au 1er novembre, ça devrait passer dans la loi, donc on devrait continuer indéfiniment à vivre dans un état sécuritaire et liberticide. C'est la première loi votée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors presque tout le monde a voté, puisque le Front National a voté, les Républicains ont voté, la droite En Marche là a voté, le Parti Socialiste a voté, enfin, ceux qui restent, en majorité les groupes. Hein. Grosso modo au niveau des groupes, en dehors des individus, c'est la France Insoumise et la Gauche Démocrate et Républicaine, essentiellement le PC, hein, qui n'a pas voté cette mesure jugée inefficace et dangereuse pour les droits fondamentaux. Bon, ça fait quand même pas beaucoup de réactions tout ça, et voilà, ça continue. Je veux dire, les gouvernements changent. Hein, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a Macron, et les lois liberticides continuent de faire leur bout de chemin. Et puis une nouvelle qui m'a fait rire et que j'ai trouvé sympa.
Mais j'ai failli la faire, mais j'étais pas sûr de vouloir lui donner la parole. Ouais, mais je me suis dit que t'as eu raison quand même. T'as eu raison. Voilà. Allez. Donc, est-ce que ça nous fait marrer?
Il y a une personnalité d'extrême droite qui s'exprimait beaucoup, qui dirigeait Radio Courtoisie, donc une radio d'extrême droite à Paris. Henri de comment on dit d'ailleurs,
de Lesquen. Oh, tu peux le dire comme tu veux, de Lesquen.
Henri de Lesquen. Il est sûrement d'origine bretonne. Et noble, parce qu'il a un 2.
Il n'y a pas de majuscule, alors on dit que ce cas-là, c'est pas le cas.
Ouais. Henri de Lesquen, donc, il a été viré. Il a énervé même ses amis d'extrême droite de Radio Courtoisie.
À côté de lui, Radio Courtoisie, c'est le centre.
Ouais, mais à côté de lui.
Il est pétainiste, il est raciste, ouais. Il est.
Bon, il a été condamné il n'y a pas longtemps à 16 000 euros pour incitation, contestation de crimes contre l'humanité. Oui. Enfin voilà, il est
ultra. Il parle de musique de nègre, par exemple.
Voilà, pour le jazz.
Marie, ouais, il avait dit que Marine Le Pen.
C'est une musique black, mais.
Écoutait la musique de nègre. C'est pour te dire, quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive même à attaquer l'extrême droite que nous, on attaque quand même violemment. Donc c'est pour dire qu'il est l'extrême droite à côté, c'est les enfants de cœur, quoi.
Tout à fait. Bon, il n'écoute pas de jazz ou de rock, parce qu'effectivement, ça a été inventé par les descendants ou les esclaves noir américain, ça c'est sûr. Comme quoi il a des coups de shot, parce qu'en plus quand on est d'extrême droite, on limite l'accès à la culture, parce que tout ce qui est fait par des non-blancs, non-occidentaux, non-français, on s'y intéresse pas. Ça limite quand même beaucoup ses perspectives, hein, mais bon, hein, on est facho, on l'est pas. Donc voilà, il a dénoncé la religion de la Shoah. C'était horrible. Enfin voilà, c'était un gros antisémite. Ils l'ont viré, et pourtant c'est une radio qui restera malheureusement porteur d'idées nauséabondes. Mais je crois qu'il a vraiment trop énervé tout le monde, puis ça devenait trop risqué, donc ils l'ont mis à pied. Voilà, ils l'ont viré, puis deux jours après il a dit qu'il se barrait de toute façon. Donc ça c'est.
Ouais, faut dire qu'en même temps il les insultait aussi à l'antenne, donc en même temps c'était plus facile, je crois, de se débarrasser de ce bonhomme. Avant que je passe aux algues vertes, tu vas parler de Microsoft.
Ah mais t'avais pas fait les algues vertes.
Non mais c'est pas grave, ça c'est toujours là.
Ouais, Microsoft c'est un des derniers ordinateurs qui s'appelle le laptop, sorti très récemment avec des belles critiques. C'est un bel outil informatique, ça vaut mille plus de 1000 euros.
Voilà.
Ça, c'est super, c'est de la merde totale. Si on suit le jugement du site iFixit, iFixit si vous voulez en français. C'est un site qui met des tutoriels de dépannage. Quand vous avez quelque chose en panne, vous allez dessus, dans le truc moderne, et vous explique comment démonter, comment changer tel élément sans passer par un service après-vente qui ça va vous coûter un bras. Donc c'est un site très intéressant. Et eux, ils ont récupéré un laptop tout neuf, ils ont essayé de le démonter. Ils se sont rendu compte que c'était impossible. Parce que, alors, il n'y a pas aucune vis, tout est soudé et collé. Mais tout, ça va très très loin, puisque le microprocesseur qui est en général posé sur un petit support avec un petit truc qu'il tient, il est soudé. T'as un truc de dingue. Le disque dur est soudé à l'intérieur. La mémoire vive, qu'on peut changer, parce que des fois ça grille, ou on veut augmenter, on change la mémoire vive, on n'en met une plus. Non, c'est pas possible, c'est soudé aussi. Et alors, le top du top, c'est que la batterie est soudée. Or, sur un ordinateur portable, puisque c'est le cas, de ce laptop, c'est l'élément qu'on change parce que la batterie, ça dure un peu moins de 3 ans, généralement en moyenne c'est 3 ans, et un ordinateur, ça dure en général le double en moyenne pour ceux qui renouvellent souvent. Du coup, grâce à ça, Microsoft vend un truc qui a une durée de vie de 3 ans, puisque c'est la durée de vie de la batterie. Donc c'est vraiment un outil industriel fabriqué avec de la pure obsolescence programmée, dire que c'est pas réparable. Ils ont mis 0 sur 20. Alors, faut savoir que le MacBook Pro, Apple est réputé hein, pour ses produits très peu réparables, il avait eu 2 sur 20. Là, ils ont mis 0 sur 20. Donc voilà, vous éviterez d'acheter un laptop si vous êtes plutôt pour qu'on puisse réparer les éléments qui s'usent ou qui s'abîment. La batterie, ça s'use. Pour l'instant, ils n'ont pas fait de batterie qui s'usait pas. Donc c'est une belle escroquerie. C'est assez typique des multinationales et du capitalisme en général, hein, d'ailleurs pas que des multinationales. Mais là, ils se sont fait un petit peu choper Microsoft.
Alors, oui, juste pour dire, pour être tout à fait honnête, sur cette île de Jeju-do, non seulement il y a du très bon cochon, mais il y a surtout de très très bonnes clémentines hein, dans cette île, avec parce qu'en fait, il y a une terre volcanique.
Tu bosses pour le ministère du tourisme sud-coréen.
Ouais,
mais
on y bouffe très très bien, donc c'est pour ça, et je voulais quand même dire que si vous mangez que des fruits et des légumes, il y a moyen de manger de ces très très bonnes clémentines qui ont la peau verte, et qui sont absolument magnifiques au niveau de la couleur orangée, et qui sont un goût qu'on connaît pas du tout, même avec la clémentine corse en France. Voilà, c'était juste de dire, ne vous privez pas de tourisme, il n'y a pas de souci.
Vous pouvez y aller en pédalo, hein, si vous êtes vegan, vous ne prenez pas l'avion parce que vous respectez aussi l'environnement. et en bateau ou en pédalo, c'est un peu loin la Corée, il faut prendre un ou deux ans, quoi, mais c'est possible.
Alors, le problème, vous savez que du cochon en France, ce sont ces usines à porc dans le Bretagne, qui provoquent des problèmes environnementaux et en particulier l'algue verte qu'on connaît bien maintenant, qui sont des algues toxique, ça fait fuir les touristes, et c'est toujours d'actualité à la veille des grandes vacances d'été, et en particulier dans la baie de Saint-Brieuc, puisqu'il y a déjà des plages qui ont été fermées. Il y a déjà 6000 tonnes d'algues vertes qui ont été ramassées depuis fin février dans la baie de Saint-Brieuc, donc c'est beaucoup, parce qu'en plus ça coûte très très cher à ramasser et à traiter quand même hein, toute cette algue verte. Alors on vous rappelle que quand ça échoue, l'algue verte, il n'y a pas de problème. Hein. Mais au bout de 48 heures, ça pourrit. Et c'est là que ça dégage une merde, hein, c'est le sulfure d'hydrogène.
Ça aurait tué quelqu'un une fois, là.
Ouais, alors.
C'est une hypothèse.
Plusieurs fois, a priori.
Ouais.
Je vais y revenir. Hein. Mais c'est un gaz donc, qui serait toxique. En tout cas, on sait que maintenant,
oui,
on a les
preuves.
C'est
un gaz qui est toxique.
Maintenant,
on le sait. Mais surtout, en remplacement de l'oxygène, on meurt.
J'enlève absolument. Alors, ça vient d'où? Ça vient des déjections des porcs.
C'est en fait le lisier de porc, du coup. Et ils ont des grandes zones d'épandage, parce qu'on ne sait pas quoi faire du lisier de porc.
Ouais.
Ils l'épandent sur des grandes surfaces de terre. Et ensuite, ça ruisselle. Et ça va dans les cours d'eau. Et
qui vont à la mer.
Et les algues se surdéveloppent, parce que ça donne énormément de choses à manger aux algues, et les algues se surdéveloppent et prennent la place de tout le reste.
Et le deuxième truc, c'est les engrais chimiques, qui, tout ça crée donc du nitrate, ça crée des problèmes.
C'est des nitrates,
et donc,
essentiellement le lisier de porc.
Voilà, et donc ça fait des...
C'est du caca, quoi, de porc.
Oui, c'est tout à fait, c'est ça, soyons très clairs pour les plus jeunes d'entre nous. Alors, on en est là pourquoi? Parce que c'est des décennies de laisser faire hein, des pouvoirs publics, et puis d'un lobbying de l'industrie agroalimentaire, hein, il faut le savoir. Moi, je vous conseille de réécouter ou d'écouter une émission de France Inter qui date du vendredi 10 juin 2016, pratiquement donc un peu plus d'un an, qui s'appelle Algues vertes en Bretagne, le grand déni. Ça dure 20 minutes et ça rappelle très très bien toute cette histoire. Il faut se souvenir qu'il y a un médecin urgentiste qui s'appelle Pierre Philippe qui en 89 avait voulu autopsier un homme, un jeune homme qui était parti faire son footing et qu'on avait retrouvé coincé dans les algues vertes. C'était donc en 89. À cette époque-là, tout le monde lui avait dit non, non, pas question. Bon, il avait trouvé ça un peu douteux. En 99, il est confronté à un autre cas. Là, c'est pareil, c'était un ouvrier qui ramassait les algues vertes, qui, lui, est pas mort, mais avait été très intoxiqué. Il n'avait pas pu faire plus de recherches. On lui avait dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous emmerdes. Globalement, c'était un peu ce qu'on lui avait répondu. Et puis, en 2009, il y a ce cas qui est devenu maintenant célèbre, c'est le cavalier avec son cheval. Le cheval est mort, et là, il y a eu une autopsie, ce médecin urgentiste a poussé. Il y a une autopsie du cheval et là on a bien trouvé que
il
s'était fait asphyxier par ces algues vertes qui avaient pourri. Donc c'est depuis 2010 qu'il y a des plans en France pour tenter de réguler ces algues vertes. Il y a eu un premier plan 2010-2015 qui s'est terminé. Et là, il y a un nouveau plan qui a été lancé cette semaine. 55 millions d'euros pour tenter d'arrêter les algues vertes. Pour vous dire tout à fait clairement, le premier plan, il n'a pas trop fonctionné. C'est-à-dire que certes, on a ramassé moins d'algues vertes dans certains endroits, mais c'est pas partout pareil dans les différents baies qui sont visées. Hein, au niveau, il y a 8 baies en Bretagne. Elles n'ont pas toutes eu le même répercussion avec ce plan. Certes, on a fait baisser les taux de nitrate, mais les associations environnementales aimeraient que le taux soit vraiment encore plus bas pour que ça soit efficace. Et puis finalement, on n'arrive pas bien à faire changer les pratiques sur la production du porc industriel en Bretagne. Ça reste un sujet quand même tabou.
Mais ça paraît difficile, en fait. La problématique, c'est qu'il y a, trop de production sur une zone trop petite. En fait, tout ça est lié à la surconsommation de viande. Hein. T'as fait ta viande tout à l'heure, mais on rappelle qu'en fait,
on devrait
manger, pour ceux qui mangent de la viande, 2 à 3 fois de la viande par semaine et pas plus.
Mais encore, déjà, c'est beaucoup trop.
C'est pas mal, parce que l'impact environnemental est énorme de la viande. Ça consomme 8 fois plus d'énergie une protéine animale qu'une protéine végétale. Et donc, ça bousille l'ensemble de la planète, parce que voilà, on en a trop, on en consomme beaucoup. Alors le cochon, c'est particulier parce que on en met partout. Il y a plein de gens qui disent non, mais j'ai pas mangé de viande aujourd'hui, sauf qu'en fait ils ont mangé des lardons, ils ont mangé
tout ça, voilà. C'est là, et que c'est une des viandes les consommées les plus facilement sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que la différence du steak, c'est que vous avez un morceau de viande devant vous, dès qu'il est préparé et cuisiné, c'est bien là où je vous expliquais tout à l'heure, la filiale veut aller, c'est qu'on oublie qu'on bouffe de la viande en fait.
Et donc c'est cet impact-là, et 60 millions, on doit être 65 millions peut-être en France, qui mangent de la viande en majorité 2 fois par jour, c'est pas jouable voilà pour l'environnement, et en plus ils exportent, donc on a une surconsommation, en plus on répartit plus, il y a plus des élevages de partout dans le monde, en France je veux dire, il y en a que dans une seule région, enfin
et
voilà,
puis c'est
tout
des
ça.
Gros élevages, c'est plus des petits, des gros élevages. Voilà l'élevage du petit producteur,
et
du
les solutions qu'ils mettent en œuvre, elles peuvent pas marcher parce qu'il y a trop en quantité de lisier. Donc soit on répartit le lisier sur toute la France ou on répartit les élevages, soit on change de politique. Mais a priori, ils cherchent des solutions pour essayer de limiter les conséquences et jamais pour réduire l'élément qui est à l'origine.
Donc c'est pour ça que ces plans ne marchent pas aujourd'hui.
Et c'est pour ça que ça marche pas et que ça marchera pas.
Voilà, parce qu'il y a toujours aussi ces problématiques de l'emploi qu'on n'arrête pas de nous répéter. C'est super l'emploi, mais enfin ça nous fait faire des dégâts environnementaux quand même assez importants. Alors pourquoi je vous disais aussi de réécouter cette émission de France Inter Algues vertes en Bretagne, c'est qu'on y redécouvre des petites perles dont l'émission a fait quelques recherches quand même à l'époque, c'est très chouette. Et on y avait des déclarations de Thierry Méret, responsable de la FNSEA du Ministère, qui déclarait dans le Télégramme en 2011 « Aucun lien scientifique n'a été établi entre les marées vertes et les activités humaines, en particulier agricoles. La méconnaissance de ce phénomène devrait conduire l'État à mener en collaboration avec des scientifiques intègres et objectifs des projets pour déterminer les origines du développement des algues vertes. Oh, » oh, oh. Et on y trouve aussi alors une interview de M. Christian Busson. Vous avez entendu parler de Michel Aubier, là, qui s'est fait attraper, condamné avec ses liens avec Total
conflit
et tout ça.
Conflit d'intérêt, ouais. Pneumologue.
Bon, Christian Busson, lui, c'est un agronome. Il travaille pour l'industrie agroalimentaire. Et donc, il fait partie de ces scientifiques qui nient le rôle des nitrates agricoles. Et donc, on y retrouve une interview de lui dans cette émission qui est absolument fantastique, puisqu'on lui demande si c'est peut-être pas la faute des bugorneaux. Et il dit peut-être. En tout cas, peut-être. Et il a écrit un livre absolument génial. Moi, j'ai juste fait que parcourir ce que j'ai pu en trouver, à vrai dire, sur Internet. Je l'ai pas acheté. Qui s'appelle « Réponse à l'écologisme, comment la connaissance permet de réfuter les peurs entretenues ». Déjà.
Ouais. Donc c'est un beau discours anti-écolo. Hein.
Donc c'est un ouvrage collectif sous la direction de Monsieur Christian Busson. C'est quand même sorti chez Lamartin. Hein. Je tiens quand même à vous signaler que c'est une préface de Claude Allègre. Et alors là,
un autre scientifique anti-écolo qui a disparu de la circulation, et ça nous fait plaisir.
Et là, tant qu'on laissera les industriels décider pour nous de ce qui est bon ou pas, on s'en sortira pas. Et c'est ces lobbyistes, ils sont très proches de nos politiques. Et c'est là où on se retrouve coincé, c'est qu'on n'arrive pas à changer la donne là-dessus, parce qu'il y a toujours une problématique de profit et que c'est pas nous qui faisons du profit là-dessus, hein, d'accord. Donc, juste, je vais terminer. Du coup, j'en profite comme c'est moi qui ai la parole pour terminer. On vous a parlé parlé de, il y a pas très longtemps, de Park Jong-hoo avec un film qui s'appelle Pandora, hein, sur le nucléaire. On disait que c'était un peu moyen, mais que bon, c'était un bon divertissement. Et puis surtout que c'était assez proche de ce qui s'était passé à Fukushima. Donc c'était pas mal à voir parce que ça donnait une idée de ce qui a pu vraiment se passer là-bas. Donc réalisateur sud-coréen. Et moi j'ai vu un film de lui qui s'appelle Yang Kasi en coréen, qui est un film qui date de 2012. Hein, donc c'est pas récent, qui a été vendu à l'international sous le nom de Daron Judd. Et c'est assez drôle parce que je sais pas si vous allez aller vous baigner derrière tout de suite. On y croise donc Jae Hyuk qui travaillait pour un laboratoire pharmaceutique. Globalement, ils galèrent professionnellement. En plus de ça, son frère flic lui a fait faire des investissements financiers qui se sont cassés la gueule. Donc, il l'a mauvaise. Globalement, il s'occupe pas de sa femme. Il délaisse ses enfants. Il est jamais à la maison. Il préfère aller picoler. Puis, il a un boulot qui est vraiment pas terrible. Hein. Et puis, parallèlement à cette petite histoire, un jour, ces petites histoires familiales, on découvre des corps à la surface de la d'une rivière, hein, la rivière Han. Des corps complètement asséché, et puis il y a une espèce de maladie qui arrive, les gens ont très faim, et puis ils ont très très soif, et ils boivent, et ils boivent, et ils boivent, et donc ils vont se noyer dans la première rivière, dans le premier bac à poissons qu'ils vont trouver, et des scènes plutôt marrantes et plutôt drôles, il faut le dire, mais ça fonctionne. C'est entre le film catastrophe, le film d'horreur, et donc ils ont ces symptômes, hein, tous et toutes, la malnutrition et puis une déshydratation très très importante, et là l'État décide de mettre en quarantaine l'État sud-coréen, ces personnes qui semblent infectées et qui sont infectées par un parasite, le Yang Kasi, donc, et là c'est l'histoire comme souvent dans les films sud-coréen, du papa qui doit sauver les enfants. On retrouvait ça avec le train pour le dernier train pour Busan. Hein, toujours cette idée du père de famille qui doit sauver ses enfants, sa femme. Et là, donc, il va partir à la recherche d'un médicament qui est censé sauver les gens de ce parasite. Et on se retrouve avec cette histoire de gouvernement qui déclare un état d'urgence, mais qui en même temps ne veut pas prendre le brevet de force de cette entreprise pharmaceutique, qui pourtant ce brevet de médicaments pourrait sauver la Corée du Sud tout en entier. Et donc c'est aussi une histoire de profit. Alors le film a les défauts de ce cinéma sud-coréen un peu larmoyant, mais c'est du cinéma de genre aussi, donc c'est pas du grand chef-d'œuvre, il faut pas vous attendre à ça. Mais pour le coup, là, c'est aussi pareil, on s'y croit, hein, finalement, dans le fait qu'il y ait des gens qui veulent faire du profit, qui sont prêts à lancer un parasite à la surface du globe, ou en tout cas juste à côté de chez eux, en Corée du Sud, pour pouvoir vendre un médicament, évidemment le plus cher possible, ou en tout cas vendre l'entreprise qui a le brevet de ce médicament. Et donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une recherche du profit qui nous amène à quand même faire de belles cochonneries pour l'environnement, ou là en l'occurrence pour sauver l'humanité. Voilà, Yang Kasi de Park Yong-hoo, histoire de avoir peut-être avant d'aller se baigner aussi. Vous voyez, histoire de, quand même, ça peut vous donner envie avant de partir en vacances.
C'est bon.
Bah ouais, c'est bon.
Et ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h pour le Canon Info du jeudi, et demain à 19h pour le Canon Info du vendredi.
Bon apéro végétal, donc. Ciao, ciao.